Bonjour à tous. Je pense que cet hymne que nous venons de chanter, on la comprendra un peu mieux après ce que je vais essayer de dire ce matin. Et pendant la prière, une image m'est venue en mémoire. En fait, j'avais entendu vaguement parler des Dominicains lorsque j'habitais encore dans mon pays, au Portugal. Et ensuite, j'ai découvert l'ordre véritablement dans le couvent où j'habite. Et lorsque le frère Pierre Raffin, qui a été évêque de Metz et qui était prieur quand je suis arrivé en France, m'a présenté Saint-Dominique, voilà, j'étais là et je me dis, mais comment ça se fait que je ne connais pas? Comment, en quelque sorte, ce trésor est resté caché? Voilà un peu ma réaction à l'époque. Je vous parle des années 81-82. Donc j'étais touché, attiré, à la fois par cet homme de Dieu et par l'équilibre. Saint-Dominique, pour moi, alors peut-être que nous, dominicains contemporains, nous sommes loin, mais c'est un homme d'un grand équilibre. Et peut-être par rapport à l'époque que nous vivons, je pense qu'il est très intéressant de se mesurer à un homme où un tel équilibre de vie humaine et spirituelle est constant. Et l'autre image, c'était lorsque je suis allé, et vous l'avez à la page 9, le petit portrait de Saint-Dominique, donc le lieu où il est né, en vieille Castille, à Calerouega. C'est un village typiquement castillan. J'ai fait des calculs, je pense que ma ville natale est à 300 km de Calerouega, de l'autre côté de la frontière, et sont des paysages très différents. Donc je visite Calerouega, je visite donc le vieux berceau, où il y avait la tour, on pourrait faire un parallèle entre la tour de Loyola, Saint-Ignace de Loyola, et la tour de Torreón de Saint-Dominique. Alors, après avoir visité le lieu berceau, il y a un monastère de moniales dominicaines qui sont là, le couvent des frères, et un village typiquement castillan. Ensuite, je suis remonté sur une petite colline qui surplombe le village, et là, je pense que j'ai mieux compris qui était Saint-Dominique. C'est étrange, c'est juste une vision comme ça. En haut de cette colline, on voit beaucoup de chemins, des chemins très droits qui partent, et la netteté à la fois de la lumière de Castille, d'une part, et ce paysage. J'étais là sur cette colline et on voyait donc les chemins qui partaient à l'horizon, dans un sens comme dans l'autre, et là, je me suis dit, Saint-Dominique vient de là. Il vient de ce lieu, ce village qu'il faut vraiment chercher. Il faut aller jusqu'à Burgos, ensuite encore chercher un autre point plus important pour arriver finalement, je ne dirais pas un trou, mais c'est un lieu à la fois caché, mais à partir duquel se détachent des horizons très impressionnants. Et je pense que comme Assise, la ville d'Assise avec toute son histoire et les rivalités, François vient de là, et c'est un homme de paix parce que justement il y avait des rivalités très importantes à Assise, Saint-Dominique, il vient de cet horizon-là. Donc voilà une image qui m'a imprégné. Ensuite, au moment où naît Saint-Dominique, donc je vous ai dit, aux alentours après 1170, peut-être 1174, Il meurt en 1221 et est canonisé en 1234. Quand Dominique naît, cette région vient, à quelques décennies à peine, d'être reconquise de l'occupation musulmane. Et il y a des choses qui restent dans la mémoire collective. Par exemple, dans ma région natale, il y a des choses qui restent de l'occupation française, dans ma région, avec les invasions de Napoléon. Ma grand-mère maternelle m'en parlait encore. Elle n'avait pas vécu ça, mais c'était resté depuis les années 1808-1810. La présence française, les armées françaises et les batailles qui ont eu lieu dans ma ville même. Alors Saint-Dominique, il naît dans une région frontière, c'est-à-dire que pendant au moins un siècle, les armées chrétiennes d'une part et les habitants tout court vont descendre la reconquête. Le point qui va rester stable sont les Asturies, comme la ville de Oviedo. Depuis la Galice, ils vont descendre progressivement pour faire la reconquête. Et ça va être une frontière mouvante, c'est-à-dire que de temps en temps, les groupes musulmans divers et variés vont remonter, massacrer éventuellement, réoccuper des terrains, et du coup, beaucoup de terrains vont rester en friche parce que la frontière politique humaine est très mouvante. Ça m'a beaucoup frappé, ça me frappe encore quand je vais en Espagne, beaucoup plus que dans mon pays. Ces vastes régions dépeuplées que vous trouvez en Espagne viennent en grande partie de ces frontières qui bougeaient constamment à la faveur de conquête. La ville de Santarém, à 80 km de Lisbonne, elle a été comme ça. Elle a été conquise, reconquise, etc. Lisbonne a été reconquise qu'au XIIe siècle. Ma ville natale a été conquise en 1086. Donc, Saint-Dominique, voilà, la reconquête, elle est dans les esprits et aussi toutes les interrogations sur l'humanité, sur l'homme, sur la valeur aussi de l'honneur, sur le dialogue avec l'autre qui est différent. Toutes ces questions, Saint-Dominique les porte dans son cœur, dans son itinéraire, et explique peut-être cet équilibre. Alors, Dominique, Domingo, Santo Domingo en espagnol, son nom vient d'une abbaye qui est dans cette région, ce monastère dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Ils ont édité des disques qui ont eu beaucoup de Santo Domingo de Silos, l'abbaye de Santo Domingo de Silos. Et si vous allez là-bas, ça mérite vraiment le détour de voir cette abbaye bénédictine avec donc toutes les sculptures magnifiques. Donc c'est en l'honneur de ce saint bénédictin, cette abbaye de la région. Et quand vous rentrez à Santo Domingo de Silos, vous verrez, en tout cas la dernière fois que j'étais là, vous verrez des chaînes pendues sur un mur dans cette église. Alors, les chaînes, c'était tous ces captifs, les captifs chrétiens qui ensuite étaient rachetés, ce qui fait qu'il y aura au Moyen-Âge les mercédaires, qui vont être constitués comme un ordre religieux qui va perdurer pendant le temps qu'il faudra pour acheter ces captifs lorsqu'ils se trouvaient captifs des musulmans, comme il y avait aussi des captifs musulmans chez les chrétiens. Voilà. Alors, donc Saint-Dominique vient de cet horizon, de cette frontière mouvante, et dans une famille chrétienne. Et maintenant, je voulais vous parler à la fois de sa prière et de son propos évangélique. Lorsqu'on lit et relit les sources primitives de l'histoire de Saint-Dominique, l'image qui s'impose d'abord est celle d'un homme de prière intense et incessante. Il prie partout. C'est un homme qui marche, qui bouge. Ce que je vous ai dit hier, nous ne sommes pas des moines, là se traduit concrètement chez Saint-Dominique, qui est un homme qui est en route dans les manières de prier de Saint-Dominique. Une des images qui est représentée, que vous avez aussi dans votre livret, c'est Saint-Dominique avec ses compagnons. Il est en route, il marche. Pourquoi? Parce qu'il prêche. Il va à droite et à gauche, il va prêcher. Et quand on voit le chemin qu'il fait, on pourrait, et ça a été fait, on pourrait comparer ou mesurer les kilomètres qu'il a fait. Donc, Calerweg en Espagne, ensuite lorsqu'il va accompagner son évêque, qui a une mission diplomatique en faveur du roi de Castille, dont un fils veut se marier avec une princesse danoise. Donc Saint-Dominique, à cause de ses qualités humaines et spirituelles, va accompagner Dieg jusqu'au Danemark. Alors il traverse donc une bonne partie de l'Espagne. En France, il va découvrir l'hérésie albigeoise et cathare. Ils poursuivent leur chemin vers le nord de l'Europe. À chaque fois, Saint-Dominique qui est encore un chanoine du chapitre d'Osma, ils font halte dans les monastères, dans les abbayes, en demandant d'être accueillis. Ils remontent jusqu'au Danemark et ce contact, d'une part avec l'hérésie et avec l'Europe du Nord, va, j'allais dire, incendier ces deux hommes, car Dieg, à cette époque, à ce moment-là, il est plutôt en premier, Dominique est son adjoint, mais tous les deux sont des hommes vraiment évangéliques. Et ils sont rivés littéralement vers l'évangélisation de ce qu'on appelle à l'époque les Cumans, c'est-à-dire des peuples au-delà de la Hongrie ou qui se situent dans ces contrées qui ne sont pas encore évangélisées. Voilà. Ce sont des tempéraments castillans, des tempéraments de feu, et quand vous allez en Castille en plein été, vous comprendrez ce que c'est qu'un tempérament de feu, vu la chaleur, vu le feu du climat. Donc, il y a déjà ces kilomètres avant la fondation de l'ordre, et ensuite, quand ils descendent vers le midi de la France, en descendant du Danemark, en s'arrêtant dans des lieux comme Rocamadour, Citeaux, en Bourgogne, ils sont marqués par cette hérésie, par ces besoins en France. Dieg, après quelques années, il finit par rejoindre son diocèse, il va mourir rapidement, et Dominique va vivre quelques années seul, à Prouille et Fanjeau, dans ce qui est aujourd'hui le diocèse de Carcassonne. Et il faut imaginer ce temps de solitude, de prédication, après une première expérience avec les délégats pontificaux, des abbés bénédictins avec toutes leurs cours abondantes et riches, et la prédication que Dominique va faire dans cette région, dans une grande pauvreté, dans un grand dépouillement. Si Saint-Dominique n'avait pas eu cette prière intense qui le tient, sûrement qu'il n'aurait pas pu tenir dans ces années de solitude où il n'a pas encore de compagnon, où il est simplement approuvé. Alors, donc il a cette prière, le colloque avec le Sauveur, et on dit de lui qu'il porte toujours avec lui l'évangile de saint Matthieu, les épîtres pauliniennes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il ne portait pas la Bible? Ben, parce que les livres sont très rares et très chers. Les couvents, on pourrait dire que la plus riche bibliothèque de l'époque d'un couvent, il pourrait avoir une centaine de livres, parce que les livres coûtaient très cher. C'était très... voilà. Quand je vous parle de la bibliothèque dont je suis le directeur aujourd'hui, qui a au moins 350 000 volumes, et les bibliothèques importantes de l'époque qui avaient une centaine de livres, vous pouvez imaginer. Avoir une Bible comme visiblement Saint-Dominique l'avait, c'était la seule et unique richesse de posséder une Bible, et souvent ces Bibles étaient assez imposantes, donc on ne pouvait pas les porter forcément avec soi. Ensuite, lorsqu'il va constituer des frères, une communauté, il porte, c'est prescrit dans les constitutions, qu'il porte avec eux les livres nécessaires. Et il y a un épisode de saint Dominique qui présente justement l'importance du livre et l'importance aussi de l'attention aux signes de son temps. Dans une ville de Castille, Palencia, c'est là qu'a été fondée la toute première université d'Espagne. Ce n'est pas à Salamanque, c'est à Palencia. Et donc à Palencia, il y a une grande famine qui survient et saint Dominique, pour secourir les pauvres, vend la seule chose, son seul trésor, il vend cette Bible. Et les témoins, les contemporains sont impressionnés. En plus, cette Bible recevait des annotations de sa main, comme on le faisait habituellement. Donc c'était un objet véritablement personnel. Alors, saint Dominique aurait répondu « Pourquoi s'attacher à des peaux mortes quand des hommes meurent de faim ?» Pourquoi s'attacher à des peaux? Parce que c'était une peau d'un animal qui était traitée pour ensuite l'écrire. Donc, voilà, c'est ces épisodes qui sont des marqueurs qui marque une frontière dans l'itinéraire spirituel de saint Dominique. Donc, je vous ai parlé de sa prière, la prière aussi d'intercession. Dans sa prière, il ne sépare pas des hommes. Son dialogue avec le Christ a toujours pour horizon les âmes pour lesquelles le Christ a donné sa vie, à savoir ses frères, les fidèles clercs et laïcs, les juifs, les sarrasins, les païens qui sont assis dans les ténèbres. Et ce qui fait que cette intercession, on peut dire que Dominique est véritablement un homme de prière et un homme d'intercession, car nous avons beaucoup de témoignages sur sa prière, notamment pendant la nuit. À Bologne, où il meurt, en Italie, des frères, en particulier à Bologne, vont l'épier pendant la nuit. Et c'est comme ça que nous avons les 9 manières de prier de saint Dominique, représentant chacune de ses postures de prière. Et visiblement, Dominique était dévoré par la passion du salut. La passion du salut de ses contemporains, pas simplement les chrétiens, la passion du salut de l'humanité. Alors, il priait la nuit, souvent. Et donc à Bologne, on ne lui connaissait même pas de cellule, car il passait le plus clair de son temps dans l'église, et ensuite, quand il était un peu épuisé, il se reposait sur les marches de l'église. Voilà, il étendait sa tête sur les marches de l'église. Et je dirais, des témoins disent aussi qu'au réfectoire, il arrivait évidemment qu'il s'endorme aussi au réfectoire. Voilà. Alors, les frères qui venaient les piller, au milieu de la nuit, parfois des frères étaient réveillés dans le dortoir, les dortoirs des couvents, comme vous le voyez aussi dans des monastères cisterciens, étaient accolés à l'église, avec voilà, un escalier qui rejoignait l'église. Et saint Dominique priait, gémissait et criait littéralement en disant « Seigneur, ayez pitié de votre peuple, que vont devenir les pécheurs ?» Que vont devenir les pécheurs ? Donc il était littéralement dévoré par cette inquiétude, l'inquiétude du salut du prochain. Je vous ai dit, je vous ai parlé de cette Bible, donc cette Bible de parchemin, cette famine. Il devait avoir probablement une vingtaine d'années, 20-25 ans. 1195-1198, lorsqu'il va vendre sa Bible. Et Jourdain de Saxe, qui est son premier successeur, donc un Allemand, il écrit, vous avez un texte dans votre livret, de ce Jourdain de Saxe, qu'on appelle le Libellus. Il dit, Jourdain de Saxe, que vous pourrez lire après, il y avait dans son cœur une ambition surprenante et presque incroyable pour le salut de tous les hommes. Il ambitionne un long et cruel martyr avec son imagination de médiéval et n'hésite pas à se représenter concrètement sous la forme de son propre corps aveuglé, amputé à un de ses membres. Voilà, il voudrait faire le maximum possible pour que, à travers sa vie, quelque chose arrive à ses contemporains. Donc, un homme marqué par la prière, par la miséricorde, mais c'est aussi un homme du dialogue. Alors, je le dis en pensant avec grande peine à un tableau qui se trouve au musée du Prado. Vous avez un grand tableau au musée du Prado à Madrid de Pedro de Berruguet qui représente saint Dominique en train de présider au tribunal de l'Inquisition. Alors, d'abord, c'est un contresens total, historique. Ce n'est pas seulement pour laver saint Dominique, c'est un contresens total puisque il n'y avait pas d'Inquisition. À l'époque de Saint-Dominique, et Saint-Dominique n'a jamais fait partie de l'Inquisition aucune. Simplement, a posteriori, les frères, beaucoup de frères qui ont participé effectivement à l'Inquisition, voulaient en quelque sorte se donner une image positive et raccrocher Saint-Dominique à l'Inquisition. Saint-Dominique est un homme du dialogue et de la communication spirituelle. Rien ne lui est plus pénible que de rester étranger, ne serait-ce qu'à cause de sa langue, à ceux qu'il côtoie dans sa vie. D'abord, c'est un Espagnol, un Castillan, et il ne tarde pas, apparemment, à parler le dialecte occitan du milieu de la France. On nous raconte un épisode de lui à Rocamadour. Je ne sais pas si vous connaissez Notre-Dame de Rocamadour. Alors, il est à Rocamadour, il remonte vers, probablement en direction de la Bourgogne, en direction de Paris, et il y a des pèlerins allemands qui font route ensemble, ils remontent ensemble. Alors, Saint-Dominique ne peut pas imaginer faire route avec ces gens sans leur parler et sans leur parler de Dieu. Alors, après sa mort, un témoin a dit que Saint-Dominique s'est mis à parler avec eux. Alors, on parle du miracle des langues, puisque Saint-Dominique va cheminer avec ses pèlerins allemands qui remontent chez eux, je pense, et qui arrivent à entrer en dialogue. Donc, Dominique est prêt toujours à rendre raison de la foi et de l'espérance qu'il porte en lui-même. Et un autre épisode marquant, c'est lorsque un soir de voyage, dans un hospice de Toulouse, lors de son tout premier voyage, il parle à l'hôtelier. Et il ne tarde pas à découvrir en lui un hérétique, sans doute, probablement un diacre cathare. Alors, il reste à discuter toute la nuit avec cet homme. Il discute, il présente ses raisons, il appelle et à l'aube, il le convertit enfin. Ensuite, il y a son dialogue avec les Vaudois et avec les Cathares, dont nous connaissons aujourd'hui la familiarité avec l'écriture et l'extrême subtilité dans l'exégèse. C'est également à sa volonté d'aller aussi loin que possible à la rencontre de ses interlocuteurs qu'il doit expérimenter dès le début, à la rencontre de son ministère, le type d'imitation des apôtres qu'à la suite des ermites prédicateurs de la réforme grégorienne pratiquent. Voilà, ils ont une prédication itinérante et mendiante. À Osma, lorsque Saint-Dominique était chanoine, voilà, il y avait l'unanimité fraternelle, la pauvreté communautaire et la prière des apôtres, imitant les apôtres au temps du Cénacle. Saint-Dominique, à partir de 1206, il adopte ce mode de vie définitivement en voulant imiter en tout la forme de vie des apôtres. Et ce genre de vie, il va le mettre au centre des inspirations de son ordre. C'est cela qui va devenir le propos évangélique. Saint Dominique, outre un homme de dialogue, est aussi un consolateur. Un consolateur. Alors, consoler, qu'est-ce que ça veut dire pour Dominique ? Les frères disent qu'il faisait à la fois appliquer avec rigueur la règle de son ordre, mais il le faisait d'une telle façon que nul n'y pouvait résister. Lorsqu'il y avait un dérèglement, il se gardait bien d'intervenir au moment du dérèglement, il attendait le temps où l'on pourrait comprendre et accepter. Il imposait alors la pénitence d'une manière si pénétrante qu'on la prenait avec élan, heureux de se retrouver soi-même en retrouvant sa vocation dans le Seigneur. Il a aussi ce dialogue avec les pécheurs, les relâchés, les femmes, pour le ministère desquelles il possède une grâce spéciale et pour lesquelles il fonde successivement 4 monastères. Alors, on raconte un épisode à propos des femmes qui montre l'humanité de ces hommes du Moyen-Âge, et Dominique ici en particulier. À la fin de sa vie à Bologne, il faisait très chaud, c'était au mois d'août, et on avait transporté le corps de Saint-Dominique vers le hauteur, vers les collines. en haut de Bologne, où on pensait que le climat était plus sain, plus facile pour l'aider. Finalement, on voit que ça ne s'arrange pas. Alors, les frères ont peur, ont très peur, qu'il meure chez les bénédictins ou cisterciens où ils se trouvaient. Alors, ils transportent le corps de Saint-Dominique, qui n'est pas encore mort, il est moribond, et il rejoint le couvent des frères à Bologne. Et là, il fait pratiquement une confession publique auprès de ses frères, en demandant pardon, etc. Et alors, il a cette confession qui est pleine d'humanité, en disant qu'il a trouvé toujours plus de... Enfin, il se confesse d'avoir trouvé plus de plaisir de la compagnie des jeunes femmes que des vieilles femmes. Voilà, vous voyez un peu cette pureté du cœur et cette quasi-naïveté. Donc, il s'adresse à toutes les conditions de personnes, que ce soit les étudiants, les usuriers mourants, ou un enfant qui porte des trames au tisserand cathare, ou les seigneurs de Ségovie qui l'écoutent assis sur leur cheval, le cardinal Ugolin de Rome, ou la recluse vieille et malpropre. Il ne se borne pas à annoncer le Christ, à ramener au Christ, il s'efforce de faire croître le Christ en chacun, selon la mesure du don qui lui est fait. Mais si son ministère est de la sorte universelle dans ses destinataires, son moyen d'action est précis, ce n'est pas d'abord l'action pastorale, c'est la prédication. Il veut ramener, unir à Dieu, qu'il annonce, qu'il évangélise. Alors, il crée une forme de vie qui est originale, en tout cas pour l'époque, en insistant sur la volonté de communion fraternelle. Parfois, de nos jours, nous comparons aux jésuites, parce que nous trouvons, nous, dominicains, que les jésuites sont infiniment plus efficaces que nous, et que nous avons trop de parlotes dans nos couvents. Mais, on peut toujours se comparer, c'est-à-dire que cela vient de Saint-Dominique, c'est de chercher partout l'unanimité, de ne pas simplement imposer par la force, mais de chercher l'unanimité, et vous savez que chercher l'unanimité, c'est très difficile. Donc il faut négocier, il faut pondérer, il faut procéder aussi par des votes, hein. Les élections chez nous, le jeu des élections, les préparations des élections sont toujours chez nous très importantes, car elles constituent un peu cet objectif de chercher la plus grande unanimité possible. Et lorsque Dominique avait pondéré véritablement une décision, il la maintenait, dit Jourdain de Saxe, il avait une telle constance dans les affaires qu'il avait jugées raisonnables devant Dieu d'accomplir, qu'il n'acceptait jamais ou presque de modifier une décision prononcée après mûre réflexion. Je vous parle par exemple d'une décision à Toulouse. À Toulouse, d'abord, ils fondent un groupe. On n'est pas encore à fonder un ordre. Ils rassemblent un groupe autour de Saint-Romain de Toulouse. Et alors, les frères sont contents d'être là avec Saint-Dominique. Et la révolte gronde déjà à Toulouse. Et Saint-Dominique décide de disperser les frères. Il les envoie en particulier à Bologne et à Paris. Ensuite, il va aussi envoyer à Madrid. Il y aura en particulier un de ses frères, Manès, qu'il va aussi envoyer à Madrid. Alors, les frères ne comprennent pas. Ils ne comprennent comprennent pas cette décision. Et bon, ils interpellent Saint-Dominique, et Saint-Dominique leur dit, leur répond, « Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. » Il maintient, essaie d'expliquer cette décision. Et en fait, cette décision de Saint-Dominique a été le moment fondateur, car son successeur, Jourdain de Saxe, il va accueillir plus de 1000 frères lors de son mandat comme provincial, Jourdain de Saxe. Donc l'ordre va prendre un tournant et une croissance incroyable. Saint-Dominique fait cela, et je ne l'ai pas encore dit suffisamment, il le fait véritablement au sein de l'Église. Le chant le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Saint-Dominique n'est pas là avec un petit groupe d'hommes qui veulent vivre une vie apostolique, il veut le faire véritablement au sein de l'Église, in medio ecclesia. C'est-à-dire qu'il ne se détache pas pour créer son petit groupe et il accepte l'interpellation de l'Église pour qu'il prenne une règle déjà existante. Donc il va prendre la règle de Saint-Augustin parce qu'elle était très proche du mode de vie qu'il avait vécu au chapitre d'Osma en Espagne, parce qu'elle insistait sur la vie communautaire, sur la vie de prière et sur l'imitation des apôtres. Et il fait des allées-venues entre Paris, entre Toulouse ou Bologne, jusqu'à Rome, pour rencontrer les papes de son époque, Innocent III, mais surtout Honorius III. Il veut que son propos, son intuition prophétique, soit validée par l'Église. Alors, il faut dire que dès son enfance, dans sa région, il est formé, éduqué par un oncle archiprêtre qui le fait élever jusqu'à sa mort. Et si on peut comparer avec François, où il y a toujours un débat, je pense même jusqu'aujourd'hui, sur la forme de vie franciscaine, où ont surgi d'autres formes de vie franciscaines. La forme de vie dominicaine que Saint-Dominique va instituer, laissant évidemment une certaine souplesse, c'est une forme de vie cléricale. Cléricale au sens, il veut former des frères prédicateurs, et pour le propos ecclésial, cette forme de vie est calquée sur un mode de vie où la prêtrise et la formation doctrinale sont fondamentales. Donc, son propos et la fondation de l'ordre sont très clairs. Parfois, il a pu avoir des débats, notamment dans les années 70, mais dès le départ, le propos de Dominique n'a pas d'ambiguïté. C'est un ordre clérical formé pour former des prêtres, pour former des prédicateurs, pour qu'ils puissent étudier, pas simplement faire des études en vue d'un ministère, mais que ces hommes étudient tout au long de leur vie. D'où l'importance d'avoir des livres, d'avoir des bibliothèques, et également cette forme de vie cléricale avec une règle, avec les temps de prière, toutes les formes de gouvernement. Saint-Dominique aussi va établir une règle qui aujourd'hui peut nous paraître lointaine, qui est la règle de la dispense. C'est-à-dire, il y a cette architecture juridique et apostolique, mais en fonction des apostolats, en fonction des besoins apostoliques, le prieur peut et doit dispenser un frère pour répondre avec urgence à tel ministère et à tel et à telle prédication. Cela va avoir aussi des conséquences sur la forme de vie liturgique, car on était marqué par la vie, par exemple, des moines bénédictins, cisterciens. Dominique va écouter le temps au cœur. Les offices canoniaux des moines, Dominique veut que les frères prient, mais de manière beaucoup plus brève, pour que ce temps ne soit pas enlevé au temps que les frères doivent dédier à l'étude. D'autant plus que, très vite, les évêques vont faire appel aux dominicains pour différentes missions. Alors, au temps de Saint-Dominique, il y avait ce qu'on appelle des écoles canoniales et des écoles cathédrales. La formation des prêtres dans les paroisses était assez déficiente, et lorsque Dominique va envoyer ses frères à Bologne, où se trouvait un centre universitaire important, notamment centré sur le droit canon, ensuite à Paris, et ensuite dans d'autres universités, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Dominique comprend, de par sa formation même, l'importance de l'étude. Alors l'étude, non pas pour l'étude, et parfois, au long de l'histoire, y compris dans notre province, il y a des frères qui sont fourvoyés en se plongeant à tête baissée dans l'étude sans un propos apostolique clair. Je le dis aussi. Donc, c'est l'étude en tant qu'il nous met en contact proche avec les besoins du prochain, avec les besoins de communiquer et d'annoncer le salut. Il faut que l'un soit toujours rapproché à l'autre. Ce n'est pas une question névralgique qui se pose à telle ou telle époque. Les formateurs, les provinciaux détachent ou incitent un frère qui a les qualités requises pour qu'il fasse véritablement des études dans cette direction pour répondre à tel ou tel besoin. Et quand on regarde l'histoire de l'Église et l'histoire de l'ordre dominicain, on a des exemples, je pense aux frères au XVIe siècle, comme Francisco de Vitoria ou Las Casas, qui vont réfléchir sur cette question des droits de l'homme, par exemple, ou lorsque Thomas d'Aquin, à Paris, va se plonger et va être en dialogue avec d'autres penseurs en dehors de l'Église, comme des penseurs arabes, et la pensée évidemment d'Aristote. L'étude reste toujours rivée vers le contact avec le prochain. Donc Dominique reste marqué, reste, je dirais, obsédé par ce dialogue avec son prochain, et les premières constitutions nous parlent, ainsi que les témoins qui vont participer au procès de canonisation à Bologne, s'accordent à attribuer à Saint-Dominique cette formule. Saint-Dominique parlait avec Dieu ou de Dieu en eux-mêmes ou avec le prochain. Il parlait avec Dieu ou de Dieu. Alors, cette formule, cependant, elle provient de Saint-Étienne de Muret, qui est le fondateur d'un ordre qui aujourd'hui n'est pas très connu, le fondateur des frères de Grandmont, c'est-à-dire des contemplatifs qui étaient à ce point retirés du monde qu'ils ne se gouvernent pas par eux-mêmes. À vrai dire, Dominique n'a pas l'idée qu'il puisse y avoir en comptabilité entre les deux faces de l'agir du prêcheur. car il voit également pratiquer ces deux actes par ceux qui ne cessent de tenir sous les yeux comme les exemplaires de son genre de vie, donc toujours les apôtres, et derrière eux, le Sauveur lui-même. Quand Grégoire IX, c'est le pape qui avait connu Saint Dominique, qui va le canoniser en 1234, donc Dominique meurt en 1221, il va être canonisé en 1234, et Grégoire IX va dire en lui, en parlant de Saint-Dominique, « En lui, j'ai connu un homme qui observait dans sa totalité la règle des apôtres et je ne doute pas qu'il leur soit associé dans le ciel. » Et Jourdain de Saxe résume l'ensemble de son attitude en utilisant l'expression latine « vir evangelicus », c'est-à-dire « l'homme évangélique ». Dominique entend, quand il demande à ses frères qu'ils partent en prédication, de se comporter partout comme des hommes évangéliques. Il va adopter cette attitude évangélique dès le début de sa prédication et va la garder jusqu'à sa mort. Toujours cette insistance sur la prière, sur le souci du prochain, cette recherche de l'unanimité et je vais terminer par là. Ainsi, le portrait du prêcheur que Dominique fait rédiger dans les constitutions primitives. Il a fait écrire ceci. Lorsqu'ils devront quitter le couvent pour aller en prédication, les frères recevront du prieur le socius, c'est-à-dire il partait deux par deux, donc le compagnon, le socius qu'il estimera convenable à leurs habitudes et à leur dignité. Ayant pris la bénédiction, ils s'en iront alors et se comporteront partout comme des hommes qui cherchent leur salut et celui du prochain, en toute perfection et esprit religieux, comme des hommes évangéliques qui suivent les pas de leur sauveur, parlant de Dieu ou avec Dieu, en eux-mêmes ou avec le prochain. Quand ils iront ainsi, ils ne devront recevoir ni porter or, argent, ni monnaie, ou quelque cadeau que ce soit, sauf leur nourriture, leurs vêtements et d'autres instruments de nécessité et leurs livres. Si l'on joint à ce texte celui du prologue des mêmes constitutions, qui dit « Puisque la règle nous fait précepte de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme dans le Seigneur, il est juste que vivant sous la même règle, liés par les vœux de la même profession, nous nous trouvions également unanimes dans l'observance de notre religion canoniale, en sorte que l'unité que nous devons conserver dans nos cœurs soit réchauffée et représentée en dehors par l'uniformité de nos mœurs. » Donc on découvre par là l'évangélisme de Saint Dominique qui assure l'unité des éléments de son esprit. On va les retrouver tous dans l'exemplaire des apôtres. La recherche de Dieu, la consécration à la prédication de l'Évangile, l'abandon quotidien à la Providence, et Frangelico va représenter une scène où les frères, au tout début de l'ordre, où les frères sont là au réfectoire et ils n'ont pas de quoi manger. Alors, ils sont inquiets et tout d'un coup arrive un ange qui porte de la nourriture pour les frères. Voilà ce que Frangelico représente de la tradition. Donc, la recherche de Dieu, l'abandon au quotidien à la Providence, le rattachement au Christ par la mission de l'Église, la communion fraternelle dans la charité, et la prière publique. Voilà un peu quelques éléments. Je peux peut-être répondre à quelques aspects sur lesquels je n'ai pas parlé.